Aujourd'hui est un jour comme un autre à Bruxelles. Du moins, c'est ce que nous pensions. Malgré une douceur inhabituelle, les gros blousons et les moufles en laine colorent déjà les rues et les métros. L'hiver approche, et en Belgique plus qu'ailleurs, il faut être prévoyant.
C'est bien équipé contre d'éventuels flocons que nous décidons d'affronter le sol glissant de la place Sainte-Catherine. Une agitation suspecte et colorée semble venir du haut de l'escalator. Plutôt que de nous faire sortir de la station, l'escalier de fer nous fait entrer dans un monde inconnu. Des lumières vives, des parfums étonnants, des sons inhabituels, cette magie émane de petits chalets surgis de nulle part durant la nuit. Les gens crient, certains se bousculent, mais l'atmosphère reste bon enfant.
Nous nous risquons à l'alcool local, le vin chaud. À boire en cas de grand froid, nous recommande une habituée des lieux. Attendez un instant. Une habituée? Vous voulez dire que cet univers n'a rien de merveilleux et d'improbable? Eh bien non. Un écriteau nous donnera la réponse un peu plus loin. Bienvenue au plaisir d'hiver. Philippe Klaus, échevin du tourisme de Bruxelles, nous présente l'endroit.
Le principe ici, c'est qu'au-delà d'un marché de Noël, c'est toute une série d'animations. C'est ça que ça s'appelle vraiment plaisir d'hiver, parce qu'il y a cette patinoire, il y a ces manèges pour enfants, cette grande route, des expos, des animations culturelles. Et donc, ce qui plaît aux gens, c'est que c'est à la fois un spectacle familial, enfin une balade, qu'on découvre des quartiers de Bruxelles, qu'on peut faire quelques achats, découvrir des artisans, et en même temps prendre un verre et déguster des mets qu'on n'a pas l'habitude de déguster.
Nous sommes déçus d'apprendre que tout ceci n'a rien d'un univers magique. Le marché est une machine bien huilée et planifiée de longue date. Nous décidons malgré tout de nous laisser séduire par les lieux. Nous avançons de chalet en chalet, de sourire en sourire. Les badauds se laissent séduire par les mets appétissants des étalages. Peu à peu, le vin chaud et la magie de Noël nous envoûtent. Près de la grande roue, pleine de lumière, nous rencontrons une Française, venue d'un pays lointain, ressemblant au nôtre. Depuis 2 ans, elle vient chercher ici ce qu'elle ne trouve pas chez elle.
C'est plus authentique que ce qu'on peut trouver en France. C'est assez éparpillé, donc ça nous permet de découvrir la ville en même temps. Et on trouve que les prix sont très abordables. Donc c'est agréable de pouvoir s'offrir quelques plaisirs.
Non content d'avoir rencontré une touriste parlant notre langue, nous décidons de chausser des patins et de voler sur la glace. Nous sommes bercés par la musique, nous nous sentons légers, et pourtant, quelque chose cloche. Nous nous rappelons alors ce que Philippe Klaus racontait à propos des nombreux commerçants présents sur le site.
Alors, ce qu'on essaie, c'est de ne pas retrouver tout le temps les mêmes choses. Donc évidemment, le produit phare, c'est le vin chaud, c'est clair. Mais on essaye vraiment qu'il y ait des produits différents et qu'il n'y ait pas de concurrence directe par rapport à ça. Alors, il y a évidemment tous ceux qui nous ont fait confiance depuis le début, qui ont une priorité, évidemment. Et puis après, c'est les gens rentrent tous un dossier. D'ailleurs, tous ceux, même si on a pu lui rentrer un dossier. Et il y a un petit comité de sélection qui sélectionne selon les produits qui sont proposés.
Ces pensées nous font tomber l'un et l'autre. Nous sommes allongés sur la glace humide et nous comprenons qu'il n'y a pas de place pour tous les commerçants. Il existe des non sélectionnés, des laissés pour compte. Nous apprendrons plus tard que seules 230 des 700 demandes actuelles sont acceptées. Alors, comment se déroule une telle sélection? Olivier Marette, du BGE, le bureau des grands événements.
Alors, pour les nouvelles candidatures, oui, effectivement, il y a un comité de sélection et on cherche avant tout à prendre des commerçants qui arrivent avec des produits qui ne sont pas présents sur le marché, on privilégie les artisans et les produits de qualité.
Produits de qualité et artisanat, ces mots résonnent dans nos esprits alors que nous nous retrouvons coincés entre 2 stands pour le moins imposant. À notre gauche, un stand de téléphonie tente d'amadouer le moindre passant. À notre droite, une célèbre compagnie de chocolat diffuse ses arômes industriels à tout va. Au loin, le rêve proposé par la grande roue semble perdre en intensité. C'est ici que la réalité économique nous rattrape. Ce commerçant est comme nous bien lucide.
C'est-à-dire qu'un événement de cette ampleur, avec une organisation top niveau, a besoin de fonds pour faire quand même un truc pareil, pour les faire dans les choses, parce que tout coûte énormément cher. De la location des chalets ne peut pas subvenir à les frais que ça incombe à un événement comme ça, quoi.
Son vin chaud et ses churros nous remontent le moral. Du sucre plein les doigts, nous discutons un bon moment avec cet habitué des lieux. Conscient des failles qu'il existe entre les lignes de ce beau compte, il s'estime chanceux d'être là, malgré les 4600 euros mensuels qu'il doit débourser pour son double chalet.
Oui, je suppose qu'il y a des recalés parce que c'est complet. Chaque année, il y a des demandes en plus pour participer. Tout le monde veut voir du chocolat chaud et du vin chaud et de la nourriture. Les gens, c'est ce qu'ils veulent. Mais bon, laissons la part belle aux artisans. C'est eux qui font, entre guillemets, la beauté d'un marché de Noël. Et bon, il y en a en face, par exemple, il y a ce qu'ils vendent, c'est magnifique.
Tout n'est donc pas magique dans cet univers aux sons et aux odeurs féeriques. Beaucoup de vendeurs, leur sac de rêve sur le dos, restent bloquées aux portes du royaume de Noël. Nous apprendons également que le nombre de commerçants habitués ne cesse d'augmenter. Alors, est-ce qu'habitué rime avec privilégié ? Eh bien, pas forcément. Selon cette autre commerçante, chaque année, il faut faire preuve d'ingéniosité et d'imagination.
Il faut proposer des produits qui renouvellent aussi, qui proposent des choses différentes toujours, puisqu'il faut quand même une cohérence, il faut éviter la concurrence. Et puis oui, je crois qu'il faut présenter les choses aussi, c'est-à-dire mettre en place joliment. Ça c'est les critères, je pense, qui sont indispensables pour qu'un marché reste joli et que ce ne soit pas la foire fouille.
Pour elle, l'atmosphère si particulière des plaisirs d'hiver serait issue de la grande camaraderie entre commerçants. Raison de plus de se féliciter de cette fidélisation.
Oui, on se retrouve un bon noyau maintenant, hein, chaque année. Donc ça, c'est un bonheur parce qu'il y a une super ambiance. Et ça, c'est très agréable de retrouver d'une année sur l'autre les exposants qui viennent depuis quelques temps maintenant.
C'est aux alentours d'un manège à l'allure curieuse et ambiguë que nous nous rendons compte que cette mise en scène a un prix. D'ailleurs, si l'on réfléchit bien, beaucoup d'histoires possèdent leurs explications. Entre les lutins du Père Noël et les Oompa Loompa de Willy Wonka, les exemples ne manquent pas. Alors nous nous figeons et guettons. Nous attendons d'apercevoir des petites créatures apporter des stocks de gobelets ou changer une ampoule morte. Mais rien. De nouveau, le rationnel nous rattrape. Nous retrouvons Olivier Marette, l'employé du bureau des grands événements.
Alors les moyens sont évidemment très complexes puisque c'est un gros événement d'abord de longue durée puisque nous avons 38 jours d'événement et les périodes de montage et démontage. Donc on occupe la voie publique pendant près de 2 mois. C'est en plein centre-ville en période de fin d'année, donc c'est un lourd chantier pour nous. Les moyens sont multiples mais surtout les moyens sont auto-générés par l'événement pour leur grande partie.
Pas de petites créatures fantastiques donc, mais des personnes comme vous et nous. Ces illusionnistes doués mettent tout en œuvre pour enchanter quiconque foulerait les pavés bruxellois. À quelques pages de la fin, c'est donc l'économie qui s'impose comme un chapitre important de cette histoire. Philippe Clause nous avait d'ailleurs expliqué ceci.
C'est ça un peu la belle opération, parce que ça fait 8 ans que la ville met exactement le même budget, même elle a même diminué de 100 000 euros, ça coûte 300 000 euros à la ville pour un événement qui grosso modo coûte entre 1 800 000 et 2 millions d'euros. Tout le reste, on va chercher en partenariat, en sponsoring et en exploitation.
Alors qu'en est-il de nous autres, simples bruxellois ? Eh bien, il faut croire que nous sommes les grands bénéficiaires de ces plaisirs d'hiver. Comme un cadeau au pied du sapin, cet événement est une chance pour la ville et il serait fou de ne pas l'ouvrir.
Alors ce qui est énorme, évidemment, c'est les retombées touristiques. Donc tous ces gens qui dorment à Bruxelles, ces gens qui consomment, qui après être venus à plaisir d'hiver, vont dans les commerces qui sont aux alentours, vont faire d'autres achats. Et donc c'est vrai que pour tout le centre-ville, c'est vraiment au mois de décembre l'événement qui a le plus gros impact économique.
C'est avec ces derniers mots présentés comme optimistes que notre histoire touche à sa fin. Une fois n'est pas coutume, ce récit de Noël ne se finit pas sur une happy end, mais sur une note mitigée. Car malgré tout leur vin chaud et une vitrine pleine de sourires, les plaisirs d'hiver ne font pas le bonheur de tous.